France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quand la physique quantique donne le vertige. La physique quantique fait voir qu'aux portes de l'atome, des notions apparemment indiscutables à notre échelle en viennent à manquer de signification. Les particules qu'elle décrit ne possèdent pas en même temps une vitesse et une position bien déterminées, et elles semblent sauter un peu partout, comme des puces très énervées. D'une façon générale, dès qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans les profondeurs de la matière, un certain sens commun fait littéralement faillite. Rendez-vous compte, la physique quantique va jusqu'à changer la manière de composer les objets, de les compter. Vous conviendrez que dans notre monde, 1 plus 1 donne toujours 2. Or, dans celui de l'infiniment petit, où les lois quantiques sont maîtresses, il existe des cas où 1 plus 1 donne autre chose que ce que prévoient les règles classiques de l'addition. C'est ce qui fut expérimentalement démontré par Alain Aspect au début des années 1980. Non que ce physicien ait soudain été pris de la lubie de faire mentir cette égalité. Il s'agissait pour lui de tester la validité d'un raisonnement étonnant établi par Einstein en 1935 à propos de la physique quantique. Le père de la relativité lui-même refusait de croire ce qu'il avait entrevu, tant cela lui paraissait absurde. Dans certaines conditions, deux particules combinées l'une à l'autre peuvent se comporter comme si elles ne constituaient qu'une seule et même entité. Quelle que soit la distance qui les sépare, 2 nanomètres comme 600 kilomètres, ce qui arrive à l'une des deux produira sur l'autre un effet instantané, comme si une plume venue vous chatouiller le nez à Chamonix faisait éternuer en même temps que vous votre frère jumeau resté à Paris. Une connexion étrange, sans équivalent dans le monde ordinaire, transforme là deux entités a priori autonomes en un seul système, qu'on dit quantiquement intriqué. En somme, dans certaines circonstances, une particule plus une particule ne fait plus vraiment deux particules. Je sais bien que tout ce que je dis là n'est pas très clair, mais heureusement, Alain Aspect est là, devant moi, et il va tout nous expliquer. Bonjour Alain Aspect.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes physicien, vous êtes lauréat du prix Nobel de physique en 2022, et vous venez de publier un livre passionnant qui s'intitule « Si Einstein avait su » aux éditions Audi Jacob. Alors que vous ayez accepté notre invitation est un honneur pour la conversation scientifique. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons un prix Nobel de physique, d'autant plus que l'émission n'est qu'hebdomadaire. Si vous êtes d'accord, on va commencer par le commencement. Est-ce que vous vous souvenez de l'âge que vous aviez lorsque vous avez entendu parler d'Einstein pour la première fois?
Oh, c'est probablement au lycée, quoique peut-être pas. Peut-être que dans la culture de mes parents, qui étaient de simples instituteurs, il a pu arriver qu'on cite Einstein certainement pour la relativité, certainement pas pour la physique quantique.
Et le mot quantique, vous l'avez entendu quand pour la première fois? À la messe, peut-être?
Avec un Q, je l'ai entendu certainement en classe de physique, en première ou en terminale, avec mon fameux professeur, Monsieur Hirsch.
Oui, justement, dans ce livre, vous nous racontez en détail l'histoire de votre longue quête, qui a été quasiment obsessionnelle, on y reviendra. Vous racontez aussi le scepticisme initial de la plupart de vos collègues, les nuits innombrables que vous avez passées au laboratoire, les moments de joie, les moments de découragement, et puis bien sûr la délivrance une certaine nuit, lorsque le résultat tant désiré a fini par surgir. Mais ce monsieur Hirsch, votre professeur de lycée, au lycée d'Agen, je crois,
oui,
il a joué un rôle déterminant dans votre choix de carrière, et même, il vous a montré des expériences qui ont eu une utilité dans la conception que vous avez faite de la fameuse expérience qui vous a valu le prix Nobel.
Oui, alors c'est ce que je raconte dans mon livre. Au moment où j'ai eu l'idée d'un dispositif essentiel dans mon expérience, j'ai revu un schéma qu'il nous avait présenté en classe de terminale. C'était un bricoleur de génie. Nous étions quand même pas si longtemps que ça après la Seconde Guerre mondiale. Les appareils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ils bricolaient des tas de systèmes pour nous démontrer les phénomènes physiques. Et donc, ils nous avaient montré une particularité de ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Et j'ai clairement eu en tête l'expérience qu'ils nous avaient montrée lorsque j'ai imaginé un dispositif qui s'est révélé essentiel dans mon expérience, qu'on appelle un commutateur acousto-optique, qui était basé sur une onde stationnaire. Mais je crois que le principal rôle de Monsieur Hirsch a été de me montrer ce qu'est la physique. La physique, c'est l'art de décrire le monde par des mathématiques suffisamment précises pour qu'elles rendent bien compte de ce qu'on observe, mais pas trop compliquées, pour que on soit capable de résoudre les équations. Car si on écrit des équations exactes, mais qu'on ne sait pas en trouver les solutions, ça ne sert à rien. Et c'est M. Hirsch qui m'a appris qu'il faut savoir, en tant que physicien, se situer entre les deux pôles.
Il faut que ce soit simple et efficace.
Pas forcément simple, mais il faut que ce soit assez simple pour qu'on puisse résoudre les équations.
Donc l'expérience qui vous a montré un aspect, c'est la corde de Melde. Melde, oui. C'est un physicien allemand qui avait montré comment on peut faire voir des ondes stationnaires, oui, en faisant osciller une corde.
Oui. Et donc, il réalisait de la stroboscopie. Alors, comme je vous le disais, à l'époque, on n'avait pas les appareils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, avec des flashs électroniques, c'est extrêmement simple d'éclairer, d'envoyer des éclairs de lumière pour observer. Et lui, comme il n'avait pas à sa disposition ce genre d'appareil, il avait une lanterne, il focalisait le faisceau de la lanterne sur un disque qui tourne, où il y a des trous. Et donc, on avait la lumière qui passait dans ces trous et qui faisait des sortes de flashs lumineux. Et ça permettait d'observer au ralenti le mouvement de la corde, de la même façon qu'au cinéma, on peut voir au ralenti tourner les roues des diligences. Ça s'appelle astroboscopie. Et ce qui était frappant dans l'onde stationnaire, comparé à une onde progressive, c'est une onde qui avance. Et donc, si on fait de l'astroboscopie d'une onde qui avance sur une corde, eh bien, comme son nom l'indique, on voit l'onde avancer. Tandis qu'une onde stationnaire, elle reste sur place. Et à un moment donné, il y a une grande ondulation. Un quart de période plus tard, il n'y a plus aucune ondulation. Un quart de période plus tard, il y a de nouveau une ondulation, etc. Et j'ai eu l'idée que si je fais interagir une onde lumineuse avec une onde acoustique stationnaire, eh bien, à certains moments, l'onde va diffracter mon onde lumineuse vers une certaine direction, et un quart de période plus tard, comme il n'y a plus d'onde acoustique, la lumière va aller tout droit. Et c'est ainsi qu'on a pu construire un commutateur qui envoie la lumière soit sur le côté, soit la laisse passer tout droit, et j'avais besoin de ça pour pouvoir changer très rapidement le type de mesure que je faisais sur mon photon.
Mais est-ce que M. Hirsch sait que vous êtes inspiré de cette expérience qu'il a faite devant vous, dans la conception de votre expérience?
Non, malheureusement, j'ai rencontré M. Hirsch au moment où j'étais en train de préparer cette expérience, mais il avait des problèmes personnels à cette époque-là, et il n'avait pas... Il était retraité depuis longtemps, et je crois qu'il venait de perdre sa femme, et il n'a pas fait l'effort intellectuel pour essayer de suivre ce que je venais lui expliquer, car ce que je venais lui dire, c'est « tout ce que j'ai, c'est fait, c'est grâce à vous », et au fond, la conversation a un petit peu tourné court.
Alors, cette expérience, vous l'avez faite dans le début des années 80.
Oui.
Vous avez soutenu votre thèse à son sujet en 1983.
Exact.
Devant un jury prestigieux, on y reviendra. Mais si vous deviez refaire cette expérience aujourd'hui, compte tenu des progrès technologiques, des progrès en électronique, est-ce qu'elle serait beaucoup plus facile à réaliser ?
Elle serait à la fois beaucoup plus facile et beaucoup plus sophistiquée, c'est-à-dire démontrant des choses plus spectaculaire encore. En réalité, celle dont je rêvais a été faite par Zeilinger et Weiss en 1998, donc 16 ans après mon expérience. J'avais toujours pensé que ce qu'il faudrait, c'est arriver à choisir aléatoirement le type de mesure que l'on fait entre le moment où le photon est parti de la source et le moment où il arrive sur le détecteur. En ce qui me concerne, je basculais d'un type de mesure à l'autre, mais je basculais d'une façon quasi périodique. Et ce que Zeilinger a pu faire, grâce au développement de sources de paires de photons qui étaient suffisamment bien dirigées pour qu'on puisse les introduire dans des fibres optiques, à partir de là, on pouvait aller faire une mesure à 200 mètres. Et pendant la propagation du photon, pendant 200 mètres, il est possible de lancer un générateur de nombres aléatoires pour choisir la mesure qu'on va faire. Donc cette mesure qui a été... Je crois qu'une fois que cette mesure a été faite, personnellement, je n'avais rien à ajouter. Alors, il y a eu encore une vingtaine d'années ou une bonne quinzaine d'années de progrès où les gens ont fermé successivement ce qu'on appelait des échappatoires. Mais c'était des échappatoires qui étaient, comme on dit, un petit peu tirés par les cheveux. Tandis que ce que Zeilinger a fait, c'est-à-dire de choisir aléatoirement la direction des polarisations mesurées entre le moment où le photon a quitté la source et le moment où il arrive sur le détecteur, ça c'était un vrai progrès. Celui-là, j'aurais aimé pouvoir le faire.
On va revenir sur l'expérience elle-même, parce que là, on n'est pas sûr de pouvoir la comprendre.
Je suis d'accord, mais c'est vous qui m'avez entraîné sur ce terrain.
Voilà. J'ai une autre question quand même, avant qu'on aille dans le dur. Imaginez que je puisse vous mettre dans une capsule temporelle qui vous propulse en 2035, dans 10 ans. Quels sont les laboratoires que vous choisiriez de visiter à ce moment-là? Et quelles questions poseriez-vous aux physiciens qui travailleraient sur l'ordinateur quantique, par exemple, ou sur l'informatique quantique? Quelles sont les questions qui, aujourd'hui, vous taraudent?
Oh, la question qui me taraude, incontestablement, c'est arrivera-t-on à intriquer, encore une fois, vous allez me dire qu'on avance trop, mais arrivera-t-on à intriquer un nombre suffisamment grand de particules? Je pense qu'un des grands mystères de la physique aujourd'hui, c'est de savoir où est la limite entre le monde quantique et le monde classique. Y a-t-il un nombre maximum de particules quantiques que l'on peut intriquer entre elles? Parce que s'il n'y a pas de limite, alors le chat de Schrödinger devient possible. Or, personne n'a jamais vu un chat de Schrödinger à la fois vivant et mort. Donc on pense que quelque part, ça s'arrête. Et la question, c'est, est-ce que ça s'arrête pour une simple raison technique, parce qu'on n'arrive pas à s'isoler suffisamment bien du bruit ambiant? Ou bien, est-ce qu'il y a une vraie limite ultime? Par exemple, parce qu'à partir du moment où la masse des objets est suffisamment grosse, si on quantifie la gravitation, ça va provoquer des fluctuations. Voilà, pour moi, l'une des grandes questions de la physique aujourd'hui. Alors j'en ai deux autres, mais qui ne sont pas dans mon domaine. C'est la matière noire et l'énergie noire. D'accord. Voilà les problèmes que j'aimerais voir résolus.
Bon, alors on va revenir maintenant à l'expérience, la fameuse. Avant d'avoir le prix Nobel, vous avez reçu le prix Einstein.
Oui.
Et puis vous avez reçu le prix Bohr.
Oui.
Or, ils ne sont pas d'accord entre eux.
Pas du tout.
Or, vous avez trouvé le moyen expérimental de départager des thèses à propos de la physique quantique qui les opposaient.
Oui.
Est-ce qu'on peut rapidement dire en quoi consistent ces thèses et en quoi elles ont pu passer d'un statut de question philosophique à des questions qu'on peut résoudre en laboratoire?
Alors, vaste question, mais je vais essayer de m'y coller. Le débat entre Bohr et Einstein porte sur la façon d'interpréter le formalisme quantique. En 1925, on a les mathématiques qui permettent de décrire le monde microscopique. Et cette théorie quantique, qui a été bien établie par Heisenberg, puis par Schrödinger, je pense que Schrödinger est plus clair, et enfin complètement clarifiée par Dirac, cette théorie opère sur des objets qui sont des objets mathématiques dans un espace abstrait et dont les calculs sont sans aucune ambiguïté, mais à la fin du calcul, il faut quand même faire un pas qui va nous revenir au monde réel pour dire oui, mais maintenant si je mesure telle chose, qu'est-ce que je vais observer? Alors, première particularité de la physique quantique, c'est la plupart du temps, je n'ai que quelques résultats possibles. C'est ça qu'on appelle la quantification. Je ne peux pas avoir n'importe quelle valeur, mais je peux avoir une valeur parmi deux, parmi trois, parmi un nombre fini. Et deuxièmement, ce que le calcul quantique me permet de calculer dans la plupart des cas, c'est la probabilité d'avoir le premier résultat, ou la probabilité d'avoir le second, ou la probabilité d'avoir le troisième. Et ça, Einstein, pour lui, ça indique non pas que la physique quantique est fausse, mais que la physique quantique n'est pas la description ultime du monde. Pour Einstein, Une description ultime du monde ne doit pas reposer sur des probabilités. Alors entendons-nous bien, Einstein n'a aucun problème avec les probabilités. En 1905, il a fait un article éblouissant qui, à lui tout seul, aurait pu lui valoir le prix Nobel sur la description du mouvement brownien, dans lequel il utilise l'outil probabiliste d'une façon absolument remarquable. Mais il pense que l'utilisation de l'outil statistique, ça permet simplement de faire un traitement simple de choses qui sont extrêmement compliquées. Un exemple que j'aime bien citer, c'est celui de la répartition des vitesses des molécules qui sont dans notre pièce ici. Si je veux suivre chaque molécule individuellement, c'est impossible parce qu'elle est en permanence en collision avec les autres, etc. Pourtant, nous avons un magnifique outil statistique, la fameuse distribution de Maxwell-Boltzmann, qui me permet de dire la proportion de molécules qui ont une vitesse comprise entre 300 et 310 mètres par seconde et de, je ne me rappelle plus, mais quelques pourcents. Cette loi statistique est extrêmement fructueuse, extrêmement utile, mais nous pensons néanmoins que chaque molécule a sa trajectoire individuelle. Eh bien, quand Einstein voit que la physique quantique fait des prévisions statistiques, il dit cela prouve le fait qu'on ne puisse faire que des prévisions statistiques, ça prouve qu'il y a un niveau en dessous où on devrait pouvoir décrire le comportement de chaque objet quantique individuel. Bohr n'est absolument pas d'accord. Bohr pense que la théorie quantique telle qu'elle existe est la description la plus précise du monde possible. Et c'est sur ça que va porter le débat entre Bohr et Einstein. Est-ce que la physique quantique est une description ultime du monde ou est-ce qu'on peut compléter en introduisant des paramètres supplémentaires en dessous, par exemple les trajectoires des molécules ?
Quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, Einstein et Bohr, pour la première fois ? Je crois que c'est chez Ehrenfest. Oui. En Hollande, en 1920.
Oui. Et clairement, ils échangent ensuite des lettres. Et clairement, il y a une très grande admiration réciproque. Et on ne peut que admirer la sagacité du comité Nobel qui leur remet le prix Nobel la même année, en 1922. Einstein a le prix Nobel 1921, mais pour des raisons dont je ne me souviens pas, il ne peut pas recevoir son prix et donc ils vont recevoir tous les deux le prix Nobel en 1922. Et il y a des lettres qui montrent qu'ils sont particulièrement heureux de le recevoir ensemble.
Alors il y a une lettre de Einstein à Paul Ehrenfest, son ami qui habitait en Hollande à l'époque, qui date du 4 mai 1920. Il dit à propos de Bohr, c'est vraiment un homme de génie. J'ai entièrement confiance en sa façon de penser. Je suis amoureux de lui autant que toi. Mais il va changer d'avis.
Oui, mais je pense qu'il n'y aura jamais d'agressivité entre eux. Il y a un débat de fond, un débat philosophique sur la nature du monde et la façon de l'interpréter. Je crois que c'est un magnifique débat. Je ne pas l'impression qu'il n'y ait jamais eu une quelconque animosité entre eux. Et donc, je ne sais plus où nous en étions, mais il y a ce débat entre Bohr et Einstein sur la possibilité ou non de compléter la physique quantique. Et là, il y a un premier événement extrêmement fort qui est connu de pratiquement tous les physiciens, et ce que je viens de dire est très important, qui se déroule en 1927 au Congrès Solvay. Einstein arrive avec un petit schéma, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience que probablement on ne sait pas faire car les moyens technologiques ne sont pas assez développés, mais qui obéit à toutes les lois connues de la physique. Et avec son expérience de pensée, Einstein dit « Tu vois, Bohr, si tu fais ceci, cela et autre chose, eh bien je peux mesurer avec une très grande précision la position et la vitesse de la particule, bien mieux que ce qu'autorise le formalisme quantique, dont ça prouve bien que ces quantités sont mieux déterminées que ce qui est autorisé par la physique quantique. » Et là, à chaque fois, Bohr arrive avec une démonstration, il montre à Einstein, il lui dit « Tu as oublié un élément dans ta démonstration. »
Parfois, ça lui a coûté une nuit blanche.
Oui, mais qu'est-ce que c'est une nuit blanche ? Et donc, Bohr, à chaque fois, arrive à contrer le raisonnement d'Einstein. Et donc, Einstein n'insiste pas. Et je pense que la plupart des physiciens sont restés sur l'idée que Bohr a répondu une fois pour toutes à toutes les objections d'Einstein.
Il y a même une fois, en 1930, où il répond un argument d'Einstein par un argument de relativité générale.
Oui, alors j'en parle dans le livre. Je ne cache pas dans le livre que autant je suis parfaitement convaincu par le débat de 1927, autant cette expérience de 1930 me laisse un petit peu rêveur. On pourrait rentrer dans les détails, c'est simplement parce que la relation d'incertitude entre temps et énergie, le fait que le temps n'étant pas une grandeur quantique, c'est un petit peu suspect. Mais par contre, 1927, il n'y a pas photo. Donc on reste sur l'idée que Bohr a répondu à Einstein de façon convaincante. Les expériences de 1927 portaient sur une particule unique. Et en 1935, Einstein découvre que le formalisme quantique, quand il décrit non pas une mais deux particules qui ont interagi dans le passé et qui se sont séparées, on se trouve en présence d'un état bizarre qu'on appelle un état intriqué. Et cet état intriqué prévoit des corrélations extrêmement fortes entre des mesures que l'on va faire sur les deux particules. Alors, si les deux particules sont très proches, ça n'étonne pas grand monde. Mais Einstein dit, mais le formalisme, il reste valable quelle que soit la distance entre les particules. Et si vous permettez, je vais prendre une analogie que j'aime bien faire dans mes conférences pour expliquer ce qu'est cette corrélation. Imaginez que j'ai une machine qui envoie des pièces de monnaie vers un opérateur qui est à gauche et un opérateur qui est à droite. Disons Alice et Bob, ils sont séparés d'une dizaine de mètres, ils sont à 5 mètres de la source. Donc la machine envoie une pièce à Alice et une pièce à Bob en même temps. Il lance la pièce vers le haut, il regarde, une fois c'est pile, une fois c'est face, c'est pile. Ça a l'air totalement aléatoire. Donc le spectateur qui est juste à côté de Alice dit « Oh, le résultat est parfaitement aléatoire ». Le spectateur qui est juste à côté de Bob dit « Le résultat est parfaitement aléatoire ». Par contre, le spectateur qui a pris un peu de recul et qui regarde nos deux opérateurs simultanément, il dit « C'est bizarre, quand Alice a pile, Bob a pile, et quand Alice a face, Bob à face. » Et là, on dit il y a un truc. Et là, j'en viens à ma conception de la physique. Ma conception de la physique, c'est que c'est la possibilité de donner une explication rationnelle à des phénomènes surprenants. Donc, nous avons un phénomène surprenant, je veux une explication rationnelle. Alors, si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que on peut imaginer une solution rationnelle qui est que la machine truque les pièces, c'est-à-dire que la machine est capable de fabriquer des pièces avec deux piles ou des pièces avec deux faces. Et donc, s'il envoie à Alice et à Bob des pièces qui ont deux piles, eh ben pas de surprise, quand Alice lance la pièce, elle a pile, et quand Bob lance la pièce, il a pile. Et donc, on peut comprendre ces corrélations à distance, le fait que si j'ai pile d'un côté, j'ai pile de l'autre, etc. C'est ça, les corrélations. On peut les comprendre en disant, mais dès le départ, les pièces de monnaie porter le résultat de l'expérience. Eh bien, ça, c'est le raisonnement d'Einstein. Einstein dit, j'envoie deux particules intriquées, il y a des corrélations très fortes entre les résultats, et la seule façon raisonnable de décrire ces corrélations, c'est que dès le départ, les deux particules portaient une propriété qui a déterminé le résultat. Et Bohr n'est pas d'accord. Pourquoi Bohr n'est-il pas d'accord? Parce qu'en faisant ça, Einstein, il dit, vous voyez bien, je suis obligé d'introduire des paramètres supplémentaires, de nouveaux paramètres pour les particules. Cette propriété qui dit, ce coup-ci, ça va être pile, ou bien ce coup-là, ça doit être pile, c'est pas dans le formalisme quantique. Et donc Einstein dit, tu vois bien, si tu veux que ces corrélations, que ces prédictions de corrélation soient raisonnables, il faut bien admettre qu'il y a des propriétés supplémentaires qui ne sont pas prises en compte dans le formalisme quantique. J'admets que le raisonnement est un petit peu compliqué. Je pense que si les auditeurs se concentrent et éventuellement le repassent une deuxième fois, ils comprendront, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas incroyable. Besoin d'avoir fait de la physique quantique pour comprendre ce raisonnement.
Ce qui est incroyable, c'est que l'article d'Einstein, qu'il a signé avec deux collaborateurs, Podolsky et Rosen, c'est l'article PR de 1935 qui paraît dans la revue
Physical Review,
un des plus cités de l'histoire de la physique. C'est un article de 4 pages,
oui,
dans lequel il n'y a quasiment pas d'équation, il y a juste du raisonnement,
oui,
et des hypothèses qu'il pose et dont il tire les conséquences à la fin. Et cet article s'appelle « Est-ce que la physique quantique peut être considérée comme complète ?»
Oui.
Et Bohr va lire ce papier, va être très troublé. On dit qu'il a eu des insomnies, justement.
Ah oui, c'est Rosenfeld qui raconte ça. Hein.
Il a été très perturbé par ce papier d'Einstein. Et il va répondre par un article qui porte le même titre.
Oui.
Et qui répond de façon opposée à celui d'Einstein, quelques mois plus tard, je crois.
Oui.
Quand est-ce que vous avez entendu parler, pour la première fois, du papier EPR?
Alors moi, c'est par John Bell, en 1974.
C'est très tard, alors?
Oui, mais moi, entre-temps, j'ai fait autre chose. Je n'ai que 27 ans, en 1974. J'ai passé 3 ans au Cameroun à enseigner, à former les professeurs de collège et de lycée au Cameroun. Et puis, je reviens en France et je fais le tour des laboratoires pour dire « Est-ce que vous avez un sujet de recherche qui pourrait m'intéresser ?» Et un jeune professeur de l'Institut d'Optique me dit « Tiens, il y a là un dossier qui m'a été transmis par Despagna. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour toi là-dedans. »
Je vous cite dans le livre, vous dites « Voilà, ce directeur s'appelait Imbert.
Oui.
Il vous remet une boîte qui contient des archives et vous retombez sur un article d'un certain John Stewart Bell, oui, basé au CERN à Genève, et vous écrivez « Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Je suis sidéré, bouleversé par cette lecture, par un raisonnement d'une clarté extrême. Bell montre qu'il existe un critère expérimental qui permet de départager les visions d'Einstein et de Bohr à propos de l'interprétation de la mécanique quantique. »
Oui.
Mais vous saviez qu'il y avait un problème avec la physique quantique ?
Non, je le découvre dans l'article de Bell, parce que vous avez dit là que l'article d'Einstein, Podolsky, Rosen est clair. Mais l'article de Bell présente le raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen d'une façon encore plus claire que l'article initial. Et donc, c'est absolument limpide dans Bell. Le débat est absolument limpide parce que on a fait un saut de 30 ans, mais le fameux article de Bohr qui répond à Einstein, et qui dit « Can quantum mechanics be considered complete ?» Ce n'est plus un raisonnement scientifique imparable comme dans leur débat de 1927. Là, c'est de la philosophie. C'est-à-dire, pour schématiser, je caricature, Bohr dit « Vous n'avez pas le droit de parler de la réalité physique des objets de façon abstraite. Quand vous parlez de la réalité physique des objets, vous devez dire quel est l'appareil de mesure que vous utilisez pour déterminer cette réalité physique. » Et c'est là qu'est la divergence philosophique fondamentale entre Einstein et Bohr. Einstein pense que les objets ont une réalité indépendante du fait que je les regarde et avec quel appareil je les observe, alors que Bohr, lui, il a une autre philosophie.
Pour Einstein, donc, les voitures ont une vitesse, même s'il n'y a pas de radar pour les mesurer.
Oui, absolument, c'est une façon de dire les choses. Et donc, pour conclure, suite à cette lecture du papier de Bell, je vais immédiatement me précipiter sur la lecture du papier EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, et de la réponse de Bohr. Et là, personnellement, je ne suis absolument pas convaincu par la réponse de Bohr. Et donc, je regarde bien ce que Bell nous explique, et ce qui est expliqué dans le papier de Bell, c'est d'une part, quel est le débat entre Bohr et Einstein, et deuxièmement, chose absolument stupéfiante, ce débat qui avait l'air d'être de nature purement philosophique, on va pouvoir le trancher par une expérience.
Ça, c'est
incroyable. Là, j'en tombe à la renverse.
Mais est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi vous, et vous, plus que d'autres, lisons ce papier? Vous avez cette émotion, ce choc, puisque le papier de Bell est sorti dans une revue assez confidentielle.
Voilà, c'est ça.
Et même ceux qui l'ont lu, à part Bernard Despagna, dont vous parlez, et quelques autres, ça leur a pas fait un effet considérable.
Alors, il y a quand même Clauser et Shimoni, qui, aux États-Unis, ont lu ce papier, et ont eu la même émotion, et ils ont avancé d'un cran en disant, eh bien, puisque il est possible, en principe, de faire une expérience, quel genre d'expérience pourrait-on faire? Et c'est eux qui, les premiers, ont l'idée qu'en prenant une paire de photons et en faisant des mesures de polarisation, on va pouvoir répondre à la question et on va pouvoir répondre est-ce que c'est Einstein ou est-ce que c'est Bohr qui a raison.
Mais rétrospectivement, est-ce que vous comprenez ce qui vous a saisi dans cette question? Au point que vous avez fait preuve d'une détermination incroyable pour entamer la construction d'une expérience, il faut avoir des moyens, il faut trouver du matériel, il faut convaincre des collègues qui au départ sont sceptiques.
Alors ce qui m'a saisi, je crois, c'est que j'avais d'abord ma formation de physicien, elle était majoritairement en physique classique. Et en fait, la façon de raisonner d'Einstein, j'y adhère complètement. Et qu'il y ait possibilité de savoir si Einstein a raison ou pas, ça me sidère. Alors, l'avantage de ma formation en deux temps, c'est que pendant que j'étais au Cameroun, j'ai appris la physique quantique dans le livre de Claude Coentanoudji, Frank Lalloé et Bernard Dieu, et que donc je n'ai aucun mal à suivre le raisonnement qui montre que si on croit vraiment à la physique quantique, on entre en contradiction avec le raisonnement d'Einstein. Mais le raisonnement d'Einstein me semble tellement imparable que je me dis, j'ai envie de travailler là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés au problème. Eh bien, je crois que j'ai évoqué tout à l'heure la première raison, qui est que même les gens qui entendaient parler du débat entre Bohr et Einstein gardaient l'idée que Bohr avait répondu à Einstein une fois pour toutes. Et ça, c'était vrai en 1927, et les gens n'avaient pas réalisé que la réponse de 1935 était loin d'être aussi convaincante. Il y a en plus, c'est peut-être un peu trop technique, mais vos auditeurs sont capables d'entendre ça, von Neumann, le très grand von Neumann, qui a écrit un livre sur les fondements mathématiques de la physique quantique, avait, dit-il, démontré l'impossibilité de compléter la mécanique quantique. Et von Neumann étant un tellement grand mathématicien, tout le monde prenait ça comme argent comptant. Et quelqu'un a trouvé une faute dans le raisonnement de von Neumann. Et ce quelqu'un, c'est John Bell. John Bell a montré que von Neumann s'était trompé et donc on pouvait envisager la possibilité de compléter la physique quantique comme Einstein le voulait. C'est une histoire intellectuelle extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut lire mon livre, parce que je raconte tout ça.
Oui, c'est absolument passionnant, parce que vous avez un peu de culot quand même. Vous allez voir John Bell au CERN à Genève.
Oui.
Et il dit... Dans la semaine, je suis un ingénieur quantique, mais les week-ends, j'ai mes principes. Ça
oui,
veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait une vie parallèle ?
Oui, absolument. Quand je suis allé le voir, cette phrase, elle a été dite beaucoup plus tard par John Bell, mais quand je vais le voir, il m'a explicitement dit il ne faut pas passer son temps à réfléchir aux fondements de la physique quantique. Donc moi, pendant la semaine, je fais des calculs standards pour comprendre le comportement des particules, et en week-end, je réfléchis aux fondements.
Mais il a même pris une année sabbatique.
Oui, il a pris une année sabbatique, et c'est là qu'il a écrit son fameux article. Et il me dit vous ne risquez rien, parce que comme vous êtes expérimentateur, vous avez les problèmes concrets de l'expérimentateur tous les jours, mais je vous engage à rester dans cette voie et ne pas basculer vers un travail qui serait à plein temps à réfléchir au fondement de la physique quantique. On s'y perd.
Est-ce que, Alain Aspect, vous pouvez nous expliquer les principes de l'expérience ? Et puis aussi la façon dont vous avez procédé. Est-ce que vous avez du mal à trouver du financement ? Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous ? Parce que par rapport à une expérience du CERN qui mobilise des centaines de physiciens, vous, c'est une toute petite équipe. Comment est-ce que vous avez fonctionné ? Est-ce que vous avez eu des moments de découragement ?
Non, mais il y a trop de questions.
Vous êtes...
questions à la fois. Je commence par laquelle ?
On tire au sort. Place au hasard.
Alors, décrivons d'abord l'expérience. On a une source. Cette source, c'est des atomes de calcium que j'excite vers un niveau excité. Et spontanément, l'atome va émettre une paire de photons. Et ces deux photons sont intriqués. Ils sont intriqués parce qu'on a bien choisi les niveaux atomiques et que la nature, gentiment, nous délivre deux photons intriqués. Ces deux photons partent dans des directions opposées et... À 6 mètres de chaque côté, je vais mettre un polariseur. Et avec ce polariseur, je vais faire une mesure qui est capable de dire plus ou moins. Et de l'autre côté, je fais une mesure qui est capable de dire plus ou moins. Avec les polariseurs, c'est un peu comme les pièces de monnaie, sauf qu'il y a un paramètre en plus. Avec les polariseurs, on peut choisir l'orientation. Donc si les deux polariseurs ont la même orientation... Ce que prédit la physique quantique, c'est une corrélation totale. Si j'ai plus d'un côté, j'ai plus de l'autre. Si j'ai moins d'un côté, j'ai moins de l'autre. Mais quand l'angle entre les deux polariseurs est un angle quelconque, disons 30 degrés ou 45 degrés, à ce moment-là, eh bien, la physique quantique prévoit un certain taux de corrélation. Ça veut dire qu'il y a une proportion de plus-plus, une proportion de plus-moins, une proportion de moins-plus, etc. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de mesurer. Si Einstein a raison, ce taux de corrélation ne peut pas excéder une certaine valeur, et la physique quantique montre que pour certaines orientations, on excède cette limite. C'est ça les inégalités de Bell. Les inégalités de Bell, ça fixe une limite aux corrélations que l'on peut observer si Einstein a raison. Et dont le but, c'est de se placer avec les orientations où la physique quantique prévoit qu'on peut dépasser cette limite. Si on la dépasse, on violera les inégalités de Bell et on montrera que la description du monde d'Einstein n'est pas tenable. Il s'agit donc de faire cette expérience. Alors, pour aller vite, encore une fois, il faut lire mon livre, Étienne. C'est écrit.
Je l'ai fait.
Bon, merci.
En fait, pour tout vous dire, je peux répondre aux questions que je vous pose.
Ah, très bien. Donc, il y a d'abord la source de paires de photons intriquées. Là-dedans, il faut avoir des atomes qui sont bien indépendants les uns des autres. Alors, c'est ce qu'on appelle un jet atomique. Les atomes se propagent, ils sont suffisamment loin les uns des autres pour ne pas se perturber. Pour les exciter, j'utilise deux lasers qui vont les porter dans un état excité. Et ça, c'est la première amélioration de ma source comparée à celle de Clauser. Comme j'utilise deux lasers, je peux exciter exactement les atomes comme je le veux et non pas taper dans le tas comme faisait Clauser. C'est pas parce qu'il était bête qu'il tapait dans le tas, c'est parce que lui, il a fait sa expérience en 1969 et moi, en 1975, et la technologie avait progressé entre-temps. Et donc, une fois que j'ai excité les atomes, ils émettent les deux photons, je sélectionne des photons qui partent face à face, et j'ai mes polariseurs à l'autre bout. Donc, avec mes polariseurs, j'ai derrière des détecteurs, il y a des photomultiplicateurs qui sont des bijoux de technologie, surtout à l'époque où je faisais cette expérience, et ensuite, il faut avoir tout un circuit électronique compliqué, et ce circuit électronique compliqué va me permettre de compter les cas où j'ai plus, les cas où j'ai plus moins, etc. Et là, je bénéficie d'une aide d'un établissement cher à votre cœur, Étienne Klein, qui est le CEA à Saclay. Le CEA à Saclay a un service d'électronique où les gens fabriquent des centaines, pour ne pas dire des milliers, d'appareils électroniques qui servent en particulier à mesurer les coïncidences. Pourquoi ils en fabriquent des centaines et des milliers? C'est parce qu'ils vont les mettre à côté d'accélérateurs. Et dans un accélérateur, il y a un nombre incalculable d'appareils de mesure. Et moi, j'ai besoin de deux. Alors, comme ils sont gentils...
Vous les ont donnés.
Non, ils me les ont prêtés. C'est-à-dire que je ne leur ai jamais rendu. Mais ils n'étaient pas dupes. Si une fois, ils m'ont appelé en me disant « Aspé, est-ce que tu pourrais nous ramener tes deux discriminateurs parce qu'on en a besoin la semaine prochaine ?»
J'aime bien votre phrase. Ils me les ont prêtés, c'est-à-dire que je ne les ai jamais rendus.
Mais ils le savaient. Mais ils le savaient que je ne les rendrais pas. Et par contre, on avait un accord tacite, encore une fois, qui a joué une fois, où s'ils avaient absolument besoin des appareils, ils m'appelaient, je leur ramenais pour une semaine et je les re-empruntais. Donc, ceci n'est que l'exemple. J'ai eu beaucoup de matériel prêté par beaucoup de collègues. Ceci me permet de parler d'une autre facette de mon travail. Quand j'ai commencé en 1974, la plupart des physiciens pensaient que ça n'avait aucun intérêt de s'intéresser au débat entre Bohr et Einstein, parce qu'ils pensaient, encore une fois, que Bohr avait répondu de façon cohérente et satisfaisante à Einstein. Et donc, quand j'allais voir quelqu'un pour lui dire « Mais vous savez utiliser les lasers accordables, et moi j'ai besoin d'utiliser un laser accordable, est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Parce que c'était tout nouveau comme technique. Je disais « Mais enfin, pourquoi veux-tu utiliser un laser accordable ?» Et j'expliquais mon histoire, et j'expliquais l'article de Bell. Et en un quart d'heure, j'étais capable d'obtenir que l'interlocuteur en face de moi me disait « Mais c'est vraiment très intéressant cette affaire-là » Je dis « Oui, c'est pour ça que je fais l'expérience. » Et donc, tout en allant mendier, en quelque sorte, l'aide de collègues, ça me donnait l'occasion de leur expliquer que le sujet était intéressant et j'ai contribué à faire basculer l'opinion d'un certain nombre de physiciens qui ont accepté l'idée que le théorème de Bell, le test des inégalités de Bell, c'était vraiment un sujet intéressant.
Mais à l'aspect, vous avez dit tout à l'heure, vous étiez entièrement convaincu par le raisonnement d'Einstein. Est-ce que ça veut dire que vous vous attendiez à ce que le résultat de votre expérience montre que les inégalités de Bell étaient respectées?
Et pas du tout. J'étais complètement convaincu par le raisonnement d'Einstein, mais par ailleurs, il y avait le calcul quantique qui était en opposition avec le raisonnement d'Einstein. Or, je savais bien que les calculs quantiques marchent quasiment toujours.
Vous étiez agnostique.
Ah, j'étais totalement agnostique, mais je pense que quand on est expérimentateur, il faut être agnostique. Mais la raison pour laquelle je trouvais ça si extraordinaire, c'est que j'ai deux démarches théoriques qui aboutissent à des résultats opposés, et je trouve les deux démarches aussi convaincantes l'une que l'autre.
Alors, comment s'est montré le résultat, Alain Aspect? Est-ce que c'est une accumulation progressive qui vous mène à la solution, ou tout d'un coup vous avez
la révélation? C'est des statistiques. C'est-à-dire qu'on a un signal qui croît, et au bout de quelques heures, il est statistiquement significatif. Au début, la quantité que l'on compare à 2, dans les inégalités de Bell, ben on trouve quelque chose qui est de l'ordre de 2,2 plus ou moins 0,5. Donc on ne sait pas si c'est plus grand que 2. Mais au fur et à mesure qu'on accumule des événements, la statistique s'affine. Je me rappelle parfaitement le soir où on a eu le résultat sur la troisième expérience. Philippe Grangier, qui n'était plus avec nous dans le laboratoire parce qu'il était en stage en lycée, mais le soir, il passait voir ce qui se passait. Et donc, j'étais avec Jean Dalibard, avec Gérard Roger, Philippe Grangier passe, et Philippe Grangier notait les résultats au vol et nous annonçait « Inégalité de Bell, pas encore violée, inégalité », parce qu'on avait déjà un résultat un peu plus grand. Tout d'un coup, il dit « Ça y est, les inégalités de Bell sont violées ». Alors évidemment, on continue à accumuler pour que la statistique soit meilleure, etc. Donc, c'est pas tout d'un coup, mais ça prend pas des mois non plus. Il faut quelques heures pour que la statistique...
Ça s'est passé une certaine nuit que vous avez dignement fêté.
Voilà. Comme on le fête chez les Aspects, avec une forte influence du Sud-Ouest, avec du foie gras et du sauterne.
Alors, vous avez soutenu votre thèse peu de temps après, le 1er février 1983 ?
Pas peu de temps après, un an plus tard.
Un an plus tard ?
Oui.
Pourquoi ça a entraîné ces rédactions ?
Parce que j'étais enseignant-chercheur et que pendant mes journées d'enseignement, c'était un enseignement très exigeant. J'enseignais à l'École normale supérieure de Cachan à des agrégatifs et les agrégatifs, ils vous pompent. Vous êtes leur entraîneur qui les prépare à l'agrégation. Ils veulent avoir l'agrégation. Et donc, ils vous pompent. Et donc, je me levais tous les matins, à 5h du matin, pour écrire ma thèse.
Mais vous saviez que c'était une bombe ?
Non. Non. J'avais déjà constaté que les gens devenaient plus bienveillants qu'il ne l'était auparavant, davantage bienveillant qu'il ne l'était au début. Au début, on me regardait avec un sourire. « Ah, Aspect, c'est le gars qui veut tester la mécanique quantique, comme si elle en avait besoin. » Par contre, là, beaucoup de gens avaient dit « Ah oui, Aspect, il a fait une expérience intéressante. » Mais l'énorme surprise, c'est que le jour de ma soutenance de thèse, on faisait la queue pour entrer dans l'amphithéâtre de l'Institut d'Optique, et il y a de nombreux physiciens, et certains que j'admirais énormément, qui n'ont pas pu rentrer. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'impact que ça avait.
Alors, c'était le 1er février 83. Dans votre jury, il y avait John Bell.
Oui, bien sûr.
Bernard d'Espagna.
Bien sûr.
Claude Coentanoudji.
Alors, Claude Coentanoudji, c'est une autre affaire. Claude Coentanoudji, au départ, aurait dû être dans le camp de ceux qui pensait que la mécanique quantique n'a pas besoin d'être vérifiée. Mais Claude Coentanoudji, je l'ai rencontré en 1978 parce que il m'a proposé une expérience qui utilisait mes fameux systèmes de comptage de photons. J'étais sans doute celui qui avait le meilleur système de comptage de photons en France. Et Claude Coentanoudji avait eu une idée qui n'avait rien à voir avec les inégalités de Bell. Mais nous avons collaboré. Et là, il s'est rendu compte que j'étais un physicien sérieux. Il a donc regardé de près ce que j'étais en train de faire. Et il a accepté de venir dans mon jury de thèse. Alors ça, c'était une bombe. Que Claude Coentanoudji accepte d'aller dans un jury de thèse où on se pose la question « Est-ce que la mécanique quantique a raison ?» Je peux vous dire que beaucoup de collègues avaient du mal à le comprendre. Donc, effectivement, il y avait Claude Coentanoudji.
Mais à l'aspect, est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance ?
Oui.
Des questions qui vous ont été posées ?
Oui, absolument.
Est-ce qu'il y a eu un effet de surprise ? Il y avait Kassler aussi, Alfred Kassler.
Alors, Alfred Kassler n'était pas dans le jury, mais il était dans le premier rang.
Au premier rang, est-ce qu'il a réagi comme...
Oui, parce que traditionnellement, quand il y a une thèse, le président de jury dit « Est-ce qu'il y a des docteurs dans la salle qui veulent poser une question ?» Et Alfred Kassler a posé une question. Et je dois dire que cette question, à mon avis, elle était un tout petit peu à côté de la plaque.
Mais vous avez été diplomate.
Et j'ai été diplomate, j'ai essayé de répondre à la fois d'une façon scientifiquement correcte, mais sans trop mettre le doigt sur le fait qu'à mon avis, la question était à côté de la plaque. Mais ce sont des choses qui arrivent.
Mais quelle a été la réaction de John Bell ? Qui était einsteinien, lui, au départ.
Oui, alors John Bell a été très clair, mais il connaissait les résultats de l'expérience depuis des mois. Je lui avais communiqué, bien sûr, en avant-première, si j'ose dire. John Bell a été très clair. Il a dit « Moi, j'aurais préféré l'autre résultat, mais j'accepte sans réserve votre résultat. » Donc, on est obligé d'admettre que ce point de vue d'Einstein va devoir être révisé.
Et Bernard d'Espagnat, lui, il était conforté dans ses propres convictions, puisqu'il avait... un peu avant, a écrit un théorème un peu moins puissant que celui de John Bell. Donc il était persuadé qu'on ne pouvait pas compléter la physique quantique.
Oui, sans doute. J'ai un petit peu de mal à être sûr que je comprends le point de vue de d'Espagna.
En tout cas, c'est ce qu'il écrit dans un livre qui s'appelle « Regard sur la matière », que je pourrais citer si on a le temps, mais je préfère vous poser d'autres questions. Cet amphi dans lequel vous avez soutenu votre thèse, l'amphi 503 Orsay, porte votre nom aujourd'hui.
Eh oui, ça c'est un immense plaisir.
Et c'est lié à la soutenance de thèse ou c'est lié au prix Nobel ?
C'est lié au prix Nobel, mais le fait que ce soit, après tout, il y a plusieurs salles attachées à l'Institut d'Optique qui auraient pu être baptisées Alain Aspect. Je crois qu'ils ont fait exprès de donner mon nom à l'amphi dans lequel j'avais soutenu ma thèse.
Est-ce que vous êtes capable de vous faire une image physique du photon qui tienne compte de tout ce que vous avez démontré? Quand vous pensez à qu'est-ce que c'est qu'un photon, est-ce qu'il y a une image juste qui vous vient à l'esprit?
Oh, juste, j'en sais rien. Mais une image, oui. Pourquoi je dis juste, je n'en sais rien? Parce que, en fait, je crois que, en tout cas, c'est ma pratique de la physique quantique, c'est que je m'autorise à avoir des images. Ces images ont le droit d'être autocontradictoires. Leur seule vertu, c'est de stimuler mon imagination. Et une fois que ces images m'ont amené à me dire « mais si on faisait ça, ce serait bizarre quand même », à ce moment-là, je fais les calculs, j'écris les équations pour savoir si les équations confirment mon intuition, et si c'est le cas, on fait la manip. Donc la réponse est oui, je suis capable de me faire une image du photon. Cette image est autocontradictoire, incohérente, mais elle m'est utile. Je ne cherche pas à convaincre les gens que cette image est bonne. Je la présente, si ça leur convient, c'est très bien. Vous savez qu'il y a de nombreux physiciens qui n'ont pas besoin d'image. Et c'est ce qu'on appelle, ceux qui sont dans l'école « shut up and calculate ». Tais-toi et fais les calculs. De nombreux physiciens disent, mais il n'y a pas besoin d'image. Faites les calculs, comparez les résultats des calculs aux résultats expérimentaux, et c'est tout ce qu'on demande à la physique. C'est vrai que c'est tout ce qu'on demande, mais moi, j'ai besoin d'image parce que ça stimule mon imagination. Donc la réponse à votre question, c'est oui, j'ai une image, mais je connais toutes les limites de cette image. Néanmoins, je la trouve utile.
À l'aspect, on pourrait dire que vous êtes un physicien complet, parce que vous pouvez lire des articles théoriques avec des calculs compliqués. Vous êtes capable de comprendre, même de faire des calculs très abscons. Et en même temps, dans le livre, on vous voit en photo en train de vider des seaux de sable. Vous avez vraiment construit l'expérience avec vos mains.
Oui, mais ça fait partie des choses que j'ai plaisir à raconter dans le livre, c'est-à-dire la façon dont on a construit l'expérience pas à pas, avec très peu d'argent, dont il fallait se débrouiller. Et quand on se débrouille, on trouve des solutions. Mais ce sur quoi j'insiste dans le livre, c'est que j'étais toujours physicien. C'est-à-dire que quand je remplissais des cylindres de sable pour poser mon expérience dessus, je réfléchissais à ce que ce sable me permette de découpler mon expérience des vibrations du sol. C'est-à-dire que je disais, ces vibrations, c'est des ondes acoustiques. Par où vont-elles passer? Comment je fais pour qu'elles ne viennent pas perturber mon expérience? Encore une fois, ma vision de physicien du monde, c'est que tout phénomène que j'observe doit pouvoir être expliqué par la physique, et même si c'est un truc expérimental du genre « je voudrais pas être soumis aux vibrations », je l'analyse en tant que physicien. On n'avait pas beaucoup d'argent, il a fallu être débrouillard, mais j'ai jamais oublié que j'étais un physicien.
Mais justement, votre livre, un aspect s'appelle « Si Einstein avait su », imagine qu'il entre dans le studio devant vous. Vous qui savez faire preuve de diplomatie, qu'est-ce que vous allez lui dire?
Si Einstein entrait dans la pièce, je lui dirais « Écoutez, voilà les résultats de mon expérience, et donc vous voyez que les résultats de... » Alors d'abord de mon expérience, celle de Clauser, celle de Zeilinger, c'est rentre aujourd'hui, il y a eu des dizaines d'expériences aujourd'hui. Et je suis au regret de vous dire que ces expériences montrent que votre vision réaliste, locale du monde... Eh bien, on est obligé d'y renoncer. Et là, peut-être qu'il prendrait l'air abattu. Et je dirais, non mais rassurez-vous, votre article de 1935, il a permis de mettre le doigt sur le fait que l'intrication, c'est un phénomène tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses applications de l'intrication. Là, on peut faire de la cryptographie quantique, on peut faire un ordinateur quantique grâce à l'intrication. Donc ne vous désolez pas, vous avez mis le doigt sur le caractère extraordinaire de l'intrication.
Mais ça veut dire que Einstein ne s'est pas trompé sur la physique quantique, il s'est trompé sur le réel.
Oui, absolument. Le réalisme local, tel qu'Einstein le concevait, n'est pas tenable, et il faut donc renoncer à quelque chose. Et donc c'est la raison du titre du livre, « Si Einstein avait su, s'il était devant moi, comment réagirait-il à la fin ?» J'essaye de l'imaginer, et ne me posez pas la question, je ne veux pas spoiler la fin du livre. Si vous voulez savoir quelle est mon hypothèse sur la réaction d'Einstein, il faut lire le livre.
Bon. On va donc laisser la question ouverte.
Voilà.
Mais votre travail, vos résultats correspondent à ce qu'on appelle la seconde révolution quantique. Peut-être la deuxième, il y en aurait peut-être une troisième.
Oui.
Avec des applications technologiques qui vous intéressent beaucoup. Vous avez parlé de la cryptographie, la téléportation, l'ordinateur quantique. Vous suivez ça de près ?
Alors, je suis ça de près. Pourquoi ? Parce que je pense, en tout cas c'est ma conception de la recherche fondamentale, je pense que quand on fait de la recherche fondamentale, on ne fait pas ça pour avoir des applications. Mais si on découvre qu'il y a des applications à sa recherche fondamentale, je trouve que c'est une récompense merveilleuse. En général, la récompense pour le physicien qui fait la recherche fondamentale, c'est de faire progresser la connaissance. Et ça, évidemment, c'est un plaisir immense. Mais si en plus, ce progrès des connaissances permet d'avoir des applications, alors c'est le bonheur. Alors parlons de la première révolution quantique. La première révolution quantique, c'est d'abord un concept, la dualité onde particules. C'est très abstrait. De ce concept naît des équations qui permettent de comprendre la stabilité de la matière, la façon dont les photons sont émis par la matière, etc. On est là en 1925-1930. Deux décennies plus tard, en 1947, des physiciens appliquent la physique quantique pour inventer le transistor. J'insiste dans le livre aussi sur le fait que le transistor n'a pas été inventé par un bricoleur dans un garage en Californie. C'est les plus grands physiciens de l'époque qui essayaient d'utiliser la physique quantique pour décrire le mouvement des électrons dans la matière qui inventent le transistor. Il faut encore une décennie pour avoir les circuits intégrés, c'est-à-dire beaucoup de transistors à la fois, et aussi pour avoir l'invention du laser. Et tout ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne la société de l'information et de la communication. Alors parlons de la seconde révolution quantique. Le concept, c'est l'intrication. Et on a quelques premières idées d'application. Mais ces idées d'application, certaines marchent déjà. C'est le cas de la cryptographie quantique. Il y a de la métrologie quantique. D'autres, l'ordinateur quantique, sont dans la phase où on teste toutes les possibilités et on ne sait pas où on va aboutir. Donc on est très loin d'avoir une révolution de la société. Par contre, on a déjà une révolution intellectuelle, il n'y a aucun doute.
Ce résultat, à l'espace, c'est ce qu'on pourrait appeler une découverte philosophique négative, pour reprendre les mots de Merleau-Ponty au Collège de France. Mais est-ce que la presse, à l'époque, et là on revient en 1983, a réagi à cette annonce ?
Oui.
Moi, je me souviens d'articles très nombreux.
Oui, la presse a absolument réagi, et quelquefois, d'une façon qui ne m'a pas plu du tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des parapsychologues, qui se sont emparés de ça pour dire « Vous voyez bien la force de l'esprit sur la matière, la torsion des petites cuillères par la force de l'esprit. » Ça s'explique comme ça. Et je dois dire que là, j'étais vraiment pas content quand je voyais des choses comme ça.
Mais le mot quantique est devenu un mot célèbre, mais ce qu'on met derrière est pas très clair. On parle d'ostéopathie quantique, de psychanalyse quantique, de crème quantique. Ça doit vous agacer ?
Ça fait plus que m'agacer. Chaque fois que j'ai l'occasion, j'explique que tout ça, ce sont des balivernes. J'espère que nombre suffisant de lecteurs et d'auditeurs ne se laissent pas prendre. En tout cas, j'essaye de contribuer à ce qu'ils ne se laissent pas prendre.
Comment est-ce que vous voyez les relations aujourd'hui entre la science et disons, la société ? Est-ce qu'on ne fait pas assez de pédagogie ?
Oui.
Est-ce que
d'abord, j'ai un côté optimiste. C'est le fait que je constate qu'il y a un vrai public pour la vulgarisation scientifique. Quand je vais faire des conférences grand public, même dans des petites villes, je vois qu'il y a des centaines de personnes qui viennent assister. Vous avez d'excellentes chaînes sur YouTube de vulgarisation scientifique qui ont des centaines de milliers de followers. Donc tout ça me rend optimiste. Ensuite, il est incontestable qu'une fraction importante de la population n'a pas la moindre idée de ce qu'est un raisonnement scientifique, de ce qu'est la méthode scientifique. Ça me désole. Et ce qui me désole le plus, c'est que beaucoup de leaders d'opinion, qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse de politiques, n'ont pas des notions de base de science. Donc j'ai le côté positif, beaucoup de gens s'intéressent. Le côté négatif, je trouve qu'il n'y a pas assez de compréhension de ce qu'est la science. Je ne dis pas qu'ils doivent être des techniciens de la science, mais j'aimerais qu'ils comprennent au minimum de ce qu'est la méthode scientifique, de ce qu'est le raisonnement scientifique, quand ce sont des politiques et quand ce sont des journalistes. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup.
Mais alors, Décharge, est-ce qu'on ne peut pas faire valoir qu'on ne peut pas défendre une conception scolaire de la citoyenneté ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître à la fois la physique quantique, la climatologie, la génétique, l'algorithmique.
Non, c'est impossible. J'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de la méthode scientifique.
Elle n'est pas la même dans toutes les disciplines.
Si, je pense que vous l'avez fort bien dit sur certains médias au moment du Covid, où vous avez été en première ligne et vous avez expliqué quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est que la science, elle a deux stades. Le stade du doute, dans lequel les experts discutent entre eux, et puis il y a un moment où il y a un consensus, et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est établi. Par exemple, le rôle de l'humanité dans l'augmentation de température, dans le réchauffement climatique. Pendant des décennies, il y a eu des débats entre scientifiques, et à un moment donné, le consensus s'est établi. Oui, il est clair que si on ne prend pas en compte l'action de l'humanité, on ne peut pas rendre compte de l'échauffement que l'on voit.
Je suis d'accord avec vous, mais pour comprendre comment s'est établi ce consensus, il faut accepter d'y passer beaucoup de temps, parce que l'histoire est longue et compliquée.
Oui, mais si au minimum on comprend qu'un consensus, il faut y croire. Après, vous avez tous les documents pour savoir comment les gens ont établi ce consensus. Mais il me semble que c'est déjà essentiel, et ça, tous les citoyens devraient être capables de le comprendre, de comprendre, parce que vous avez des gens qui arrivent et qui vous disent « la science est le doute ». Mais non, la science est le doute dans la première phase, celle où on discute. Mais une fois que c'est établi, la science, c'est un socle à partir duquel on peut construire. Et je pense que ça, tout le monde peut le comprendre, même si la personne en question n'est pas climatologue, n'est pas physicien quantique, etc.
Mais ce n'est pas une bonne façon de reconnaître cette différence. Quand un scientifique parle, il devrait dire « nous savons que ».
Absolument.
Ça, c'est la science.
Ça, c'est la science.
Et nous demandons si, ça, c'est la recherche.
Oui.
Donc oui. Le doute de la recherche est le doute de celui qui sait qu'on ne sait pas.
Oui, mais encore une fois, c'est un stade. Par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas si on va être capable de construire un ordinateur quantique idéal.
Mais vous avez tranché une question quand même, vous avez coupé l'histoire en deux.
Oui.
Il y a un avant et un après de ces expériences.
Donc ça, c'est la science socle. Plus personne ne doute que les inégalités de Bell ont été violées dans des expériences convaincantes. C'est quelque chose qui est établi. Mais presque personne n'en doute. Ceux qui en doutent, ce n'est pas important.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que consensus ne veut pas dire unanimité à 100%. Consensus veut dire que l'immense majorité des experts du domaine sont d'accord.
Dernière question à l'aspect, parce que le temps a passé malheureusement. Qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix Nobel ? Qu'est-ce que ça change à la vie et qu'est-ce que ça change au rapport qu'on a avec soi-même ?
Alors, comme toutes vos questions, il y a plein de questions emboîtées dedans. Qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix Nobel ? Au moment où on se lève et où on franchit les dizaines de mètres qui vous séparent du roi de Suède, qui va vous remettre la fameuse médaille, là, j'imagine que c'est comme on raconte qu'il y a des gens qui repassent tout le film de leur vie dans leur tête devant un événement dramatique. C'est un petit peu la même chose, sauf que c'est pas un événement dramatique. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment explicitement revu le jeune Alain Aspect dans la classe de Monsieur Hirsch, le jeune Alain Aspect en train de lire l'article de Bell, et finalement, le résultat. Donc ça, c'est sur le moment. Après, il y a tout l'apparat de la royauté suédoise qui est amusante et pas inintéressante, mais il y a surtout le fait que une fois que vous êtes revenu chez vous, eh bien vous avez une parole qui porte et j'essaye de l'utiliser pour dire quelles sont mes conceptions de la science.
Merci, vous avez très bien utilisé votre parole ici. Merci à vous, Alain Aspect. C'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Je recommande la lecture de votre livre « Si Einstein avait su » qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.